Vers la fin du XVe siècle, c'est-à-dire à l'époque où s'ouvre ce récit, la place de Saint-Pierre de Rome était loin d'offrir l'aspect grandiose sous lequel elle se présente de nos jours à ceux qui y arrivent par la place dei Rusticucci. En effet, la basilique de Constantin n'existait plus, et celle de Michel-Ange, chef-d'œuvre de 30 papes, travail de 3 siècles et dépense de 260 millions, n'existait pas encore. L'ancien édifice, qui avait duré 1145 ans, avait menacé ruine vers 1440, et Nicolas V, ce précurseur artistique de Jules II et de Léon X, l'avait fait démolir, ainsi que le temple de Probus Anicius qui y attenait, et avait fait jeter à leur place par les architectes Rossellini et Baptiste et Alberti les fondations d'un nouveau temple. Mais quelques années après, Nicolas V étant mort et le Vénitien Paul II n'ayant pu donner que 5000 écus pour continuer le projet de son prédécesseur, le monument s'arrêta à peine sorti de terre et offrit l'aspect d'un édifice mort-né, aspect plus triste encore que celui d'une ruine. Quant à la place elle-même, elle n'avait encore, comme on le comprend bien par l'explication que nous venons de donner, ni sa belle colonnade du Bernin, ni ses fontaines jaillissantes, ni son obélisque égyptien qui, au dire de Pline, fut élevé par le pharaon Nincoré dans la ville d'Héliopolis et transporté à Rome par Caligula, qui le plaça dans le cirque de Néron, où il resta jusqu'en 1586. Or, comme le cirque de Néron était situé sur le terrain même où s'élève aujourd'hui Saint-Pierre, et que cet obélisque couvrait de sa base la place où est la sacristie actuelle, on le voyait comme une aiguille gigantesque s'élancer au milieu des colonnes tronquées, des murs inégaux et des pierres à moitié taillées. À droite de cette ruine au berceau s'élevait le Vatican, splendide tour de Babel, à laquelle tous les architectes célèbres de l'école romaine ont travaillé depuis 1000 ans. Ils n'avaient point encore à cette époque ces deux magnifiques chapelles, ces 12 grandes salles, ces 22 cours, ces 30 escaliers et ces 2000 chambres, car le pape Sixte Quint, ce sublime gardeur de pourceaux, qui, en 5 ans de règne, a fait tant de choses, n'avait pu encore y faire ajouter l'édifice immense qui, du côté oriental, domine la cour de Saint-Damase. Mais c'était déjà le vieux et saint palais aux antiques souvenirs dans lequel Charlemagne reçut l'hospitalité lorsqu'il se fit couronner empereur par le pape Léon III. Au reste, le 9 août 1492, Rome tout entière, depuis la porte du peuple jusqu'au Colisée et depuis les thermes de Dioclétien jusqu'au château Saint-Ange, semblait s'être donné rendez-vous sur cette place. La multitude qui l'encombrait était si grande qu'elle refluait dans toutes les rues environnantes, se rattachant au centre comme les rayons d'une étoile, et qu'on la voyait, pareil à un tapis mouvant et bariolé, monter dans la basilique, se grouper sur les pierres, se suspendre aux colonnes, s'étager sur les murs, entrer par les portes des maisons et reparaître à leurs croisées si nombreuses et si pressées qu'on eût dit que chaque fenêtre était murée avec des têtes. Or, toute cette multitude avait les yeux fixés sur un seul point du Vatican, car le Vatican renfermait le conclave, et comme Innocent VIII était mort depuis 16 jours, le conclave était en train d'élire un pape. Rome est la ville des élections. Depuis sa fondation jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant l'espace de 26 siècles à peu près, elle a constamment élu ses rois, ses consuls, ses tribuns, ses empereurs et ses papes. Aussi Rome, pendant les jours de conclave, semble-t-elle atteinte d'une fièvre étrange qui pousse chacun vers le Vatican ou vers Montecavallo, selon que l'assemblée écarlate se tienne dans l'un ou l'autre de ces deux palais. C'est qu'en effet, l'exaltation d'un nouveau pontife est une grande affaire pour tout le monde. Car comme, d'après la moyenne établie depuis Saint-Pierre jusqu'à Grégoire XVI, chaque pape dure à peu près 8 ans, ces 8 ans sont, selon le caractère de celui qui est élu, une période de tranquillité ou de désordre, de justice ou de vénalité, de paix ou de guerre. Or, jamais peut-être, depuis le jour où le premier successeur de Saint-Pierre s'assit au trône jusqu'à l'interrègne où l'on était arrivé, l'inquiétude ne s'était manifestée aussi grande qu'elle l'était au moment où nous avons montré tout le peuple se pressant sur la place Saint-Pierre et dans les rues qui y conduisaient. Il est vrai que ce n'était pas sans raison, car Innocent VIII, que l'on appelait le père de son peuple parce qu'il avait augmenté le nombre de ses sujets de 8 fils et d'autant de filles, après avoir passé sa vie dans la volupté, venait, comme nous l'avons dit, de mourir à la suite d'une agonie pendant laquelle, s'il faut en croire le journal de Stefano Enfessura, 220 meurtres avaient été commis dans les rues de Rome. Le pouvoir était donc échu, comme d'habitude, au cardinal Camerlingue, qui devient souverain dans l'interrègne. Mais comme celui-ci avait dû remplir tous les devoirs de sa charge, c'est-à-dire faire battre monnaie à son nom et à ses armes, ôter l'anneau du pêcheur du doigt du pape mort, habiller, raser, farder et faire embaumer le cadavre, descendre après les 9 jours d'obsèques le cercueil dans la niche provisoire où doit se tenir le dernier pape trépassé, jusqu'à ce que son successeur vienne y prendre sa place et le renvoyer dans sa tombe définitive. Enfin, comme il lui avait fallu murer la porte du conclave et la fenêtre du balcon où l'on proclame l'élection pontificale, il n'avait pas eu un seul moment pour s'occuper de la police, de sorte que les assassinats avaient continué de plus belle et que l'on appelait à grands cris une main énergique qui fit rentrer dans le fourreau toutes ses épées et tous ses poignards. Les yeux de cette multitude étaient donc fixés, comme nous l'avons dit, sur le Vatican et particulièrement sur une cheminée de laquelle devait partir le premier signal, quand tout à coup, au moment de l'Ave Maria, c'est-à-dire à l'heure où le jour commence à s'éteindre, de grands cris mêlés d'éclats de rire s'élevèrent de toute cette foule, murmures discordants de menaces et de railleries. C'est qu'on venait d'apercevoir, au sommet de la cheminée, une petite fumée qui semblait, comme un léger nuage, monter perpendiculairement dans le ciel. Cette fumée annonçait que Rome était toujours 100 mètres et que le monde n'avait pas encore de pape. Car cette fumée était celle des billets de scrutin que l'on brûlait, preuve que les cardinaux n'étaient point tombés d'accord. À peine cette fumée eut-elle paru, pour se dissiper presque aussitôt, que tout ce peuple innombrable, sachant bien qu'il n'avait plus rien à attendre et que tout était dit jusqu'au lendemain 10 heures du matin, moment auquel les cardinaux faisaient leur premier tirage, se retira, tumultueux et railleur, comme après la dernière fusée d'un feu d'artifice. Si bien qu'au bout d'un instant, il ne resta plus, là où un quart d'heure auparavant s'agitait tout un monde, que quelques curieux attardés, qui, demeurant dans les environs ou sur la place même, étaient moins pressés que les autres de regagner leur logis. Encore peu à peu, les derniers groupes diminuèrent-ils insensiblement, car 9h30 venaient de sonner, et à 7h déjà, les rues de Rome commençaient à n'être point sûres. Puis, à ces groupes, succéda quelques passants solitaires et hâtant le pas. Les portes se fermèrent successivement, les fenêtres s'éteignirent les unes après les autres. Enfin, comme 10 heures sonnaient, à l'exception d'une des croisées du Vatican où l'on voyait veiller une lampe obstinée, maisons, places et rues, tout était tombé dans la plus profonde obscurité. En ce moment, un homme enveloppé d'un manteau se dressa comme une ombre contre une des colonnes de la basilique inachevée et, se glissant lentement et avec précaution entre les pierres gisantes autour des fondations du nouveau temple, s'avança jusqu'auprès de la fontaine qui formait le centre de la place et qui s'élevait à l'endroit même où est dressé aujourd'hui l'obélisque dont nous avons déjà parlé. Arrivé là, il s'arrêta, doublement caché par l'obscurité de la nuit et par l'ombre du monument, et après avoir regardé autour de lui pour voir s'il était bien seul, il tira son épée et, frappant 3 fois de sa pointe le pavé de la place, il en fit jaillir chaque fois des étincelles. Ce signal, car c'en était un, ne fut point perdu. La dernière lampe qui veillait encore au Vatican s'éteignit, et au même instant, un objet lancé par la fenêtre tomba à quelques pas de l'homme au manteau qui, guidé par le son argentin qu'il avait rendu en touchant les dalles, ne tarda point à mettre la main dessus malgré les ténèbres et, dès qu'il l'eut en sa possession, s'éloigna rapidement. L'inconnu marcha ainsi sans se retourner jusqu'à la moitié de Borgo Vecchio. Mais là, ayant tourné à droite et pris une rue, à l'autre extrémité de laquelle était une madone avec sa lampe, il s'approcha de la lumière et tira de sa poche l'objet qu'il avait ramassé et qui n'était rien autre chose qu'un écu romain. Seulement, cet écu se dévissait et, dans une cavité pratiquée dans son épaisseur, renfermait une lettre que celui à qui elle était adressée commença de lire, au risque d'être reconnu, tant il avait hâte de savoir ce qu'elle contenait. Nous disons « au risque d'être reconnu », car dans son empressement, le correspondant nocturne avait rejeté le capuchon de son manteau en arrière, et comme sa tête était tout entière dans le cercle lumineux projeté par la lampe, il était facile de distinguer à la lumière un beau jeune homme de 25 à 26 ans à peu près, vêtu d'un juste corps violet ouvert aux épaules et aux coudes pour laisser sortir la chemise, et coiffé d'une toque de même couleur dont la longue plume noire retombait jusque sur son épaule. Il est vrai que la station ne fut pas longue, car à peine eut-il achevé la lettre, ou plutôt le billet, qu'il venait de recevoir d'une manière si mystérieuse et si étrange, qu'il le replaça dans son portefeuille d'argent, et que, rajustant son manteau de manière à s'en voiler tout le bas de la figure, il reprit sa route d'un pas rapide, traversa Borgo San Spirito, et prit la rue della Longara, qu'il suivit jusqu'au-dessus de l'église de Regina Celi. Arrivé à cet endroit, il frappa rapidement trois coups à la porte d'une maison de belle apparence qui s'ouvrit aussitôt, puis, montant lentement l'escalier, il entra dans une chambre où l'attendaient deux femmes avec une impatience si visible que toutes deux, en l'apercevant, crièrent ensemble « Eh bien, Francesco, quelle nouvelle ?»« Bonne, ma mère, bonne, ma sœur !» répondit le jeune homme en embrassant l'une et en tendant la main à l'autre. « Notre père a gagné trois voix aujourd'hui, mais il lui en manque encore six pour avoir la majorité. »« N'y a-t-il donc pas moyen de les acheter ?» s'écria la plus âgée des deux femmes, tandis que l'autre, à défaut de la parole, interrogeait du regard. « Si fait, ma mère, si fait !» répondit le jeune homme, « et c'est bien à quoi mon père a pensé. Il donne au cardinal Orsini son palais de Rome avec ses deux châteaux de Monticello et de Soriano. » Il donne au cardinal Colonna son abbaye de Subiaco. Il donne au cardinal de Saint-Ange l'évêché de Porto avec son mobilier et sa cave, au cardinal de Parme la ville de Nepi, au cardinal de Gênes l'église de Santa Maria in Via Lata, et enfin au cardinal Savelli l'église de Sainte-Marie-Majeure et la ville de Civita Castellana. Quant au cardinal Ascanio Sforza, il sait déjà que nous avons envoyé avant-hier chez lui quatre mulets chargés d'argent et de vaisselle, et sur cet argent, il s'est engagé à donner 5 000 ducats au cardinal patriarche de Venise. Mais comment ferons-nous connaître aux autres les intentions de Roderick ? Demanda la plus âgée des deux femmes. Mon père a tout prévu et nous ouvre un moyen facile. Vous savez, ma mère, avec quel cérémonial on porte le dîner des cardinaux ? Oui, sur un brancard, dans un grand panier, aux armes de celui à qui le repas est destiné. Mon père a acheté l'évêque qui le visite. C'est demain, jour gras. On enverra aux cardinaux Orsini, Colonna, Savelli, de Saint-Ange, de Parme et de Gênes, des poulets pour rôti, et chaque poulet contiendra une donation en bonne forme, faite par moi au nom de mon père. Des maisons, palais ou églises qui leur sont destinées. « À merveille !» dit la plus âgée des deux femmes. « Maintenant, j'en suis sûre, tout ira bien. »« Et par la grâce de Dieu, » répondit la plus jeune avec un sourire étrangement railleur, « notre père sera pape. »« Oh, ce sera un beau jour pour nous !» s'écria François. « Et pour la chrétienté !» répondit sa sœur avec une expression plus ironique encore. « Lucrèce, Lucrèce !» dit la mère, « tu ne mérites pas le bonheur qui nous arrive. » « Qu'importe, puisqu'il vient tout de même. D'ailleurs, vous connaissez le proverbe, ma mère. Les nombreuses familles sont bénies du Seigneur. À plus forte raison la nôtre, qui a tant de ressemblances avec celle des patriarches. » Et en même temps, elle jeta à son frère un regard d'une telle lascivité que le jeune homme en rougit. Mais comme, pour le moment, il avait à penser à autre chose qu'à ses amours incestueuses, il ordonna de réveiller quatre domestiques, et tandis que ceux-ci s'armaient pour l'accompagner, il rédigea et signa les 6 donations qui devaient le lendemain être envoyées aux cardinaux. Car ne voulant pas être vu chez eux, il comptait profiter de la nuit pour les remettre lui-même aux différentes personnes de confiance qui devaient les leur faire passer, ainsi qu'il avait été convenu, à l'heure du dîner. Puis, lorsque les donations furent en bon ordre et les serviteurs prêts, François sortit avec eux, laissant les deux femmes faire des rêves dorés sur leur grandeur future. Dès le point du jour, le peuple se précipita de nouveau, aussi ardent et aussi empressé que la veille, sur la place du Vatican, où, au moment accoutumé, c'est-à-dire à 10 heures du matin, la fumée vint encore, comme d'habitude, éveillant les rires et les murmures, annoncer qu'aucun des cardinaux n'avait réuni la majorité. Cependant, le bruit commençait à se répandre que les chances étaient réparties sur 3 candidats, qui étaient Roderick Borgia, Julien de la Rovère et Ascanio Sforza. Car le peuple ignorait encore la circonstance des 4 mulets chargés de vaisselle et d'argent qui avaient été conduits chez ce dernier et moyennant lesquels il avait cédé ses voix à son concurrent. Au milieu de l'agitation qu'avait excitée dans la foule cette déception nouvelle, on entendit des chants religieux. C'était une procession commandée par le cardinal Kamerling pour obtenir du ciel la prompte élection d'un pape et qui, parti de l'église d'Araceli au Capitole, devait faire des stations devant les principales madones et dans les basiliques les plus fréquentées. Dès qu'on aperçut le crucifix d'argent qui l'a précédé, le silence le plus profond se rétablit et chacun se mit à genoux, de sorte qu'un recueillement suprême succéda au tumulte et au bruit qui, quelques minutes auparavant, se faisait entendre et qui, à chaque fumée nouvelle, prenait un caractère plus menaçant. Aussi, beaucoup pensèrent-ils que la procession, en même temps que son but religieux, avait un but politique et que son influence devait être aussi grande sur la terre qu'au ciel. En tout cas, si tel avait été le dessein du cardinal Kamerling, il ne s'était pas trompé et l'effet produit fut tel qu'il le désirait. La procession passée, les rires et les plaisanteries continuèrent, mais les cris et les menaces avaient complètement cessé. Toute la journée s'écoula ainsi, car à Rome, personne ne travaille. On est cardinal ou laquais, et chacun vit on ne sait comment. La foule était donc toujours des plus nombreuses, lorsque, vers les 2 heures de l'après-midi, une autre procession, mais qui avait, celle-là, le privilège de provoquer autant de bruit que l'autre commandait le silence, traversa à son tour la place Saint-Pierre. C'était la procession du dîner. Le peuple l'accueillit avec ses éclats de rire habituels, sans se douter, irrévérencieux qu'il était, qu'avec cette procession, plus efficace que la première, le nouveau pape venait de passer. L'heure de l'Ave Maria vint comme la veille, mais comme la veille, l'attente de toute la journée fut perdue, et à 8h30 sonnant, la fumée quotidienne reparut au sommet de la cheminée. Mais comme, au même moment, des bruits qui venaient de l'intérieur du Vatican se répandirent, annonçant que, selon toute probabilité, l'élection aurait lieu le lendemain, ce bon peuple prit patience. D'ailleurs, il avait fait très chaud ce jour-là, et il était si écrasé de fatigue et si brûlé par le soleil, lui qui vit d'ombre et de paresse, qu'il n'avait plus même la force de crier. La journée du lendemain, qui était celle du 11 août 1492, se leva, orageuse et sombre, ce qui n'empêcha pas la multitude d'encombrer places, rues, portes, maisons, basiliques. D'ailleurs, cette disposition du temps était une véritable bénédiction du ciel, car s'il y avait de la chaleur, du moins il n'y aurait pas de soleil. Vers les 9 heures, un orage terrible s'amoncela sur tout le Transtévère. Mais qu'importait à cette foule pluie, éclairs et foudres ? Elle était préoccupée d'un bien autre soin, elle attendait son pape. On le lui avait promis pour ce jour-là, et l'on pouvait voir, aux dispositions de chacun, que si la journée se passait sans qu'il y eût élection, alors il pourrait bien y avoir émeute. Aussi, à mesure que l'heure s'avançait, l'agitation devenait-elle plus grande. 9 heures, 9h30, 10 heures moins un quart sonnèrent, sans que rien vînt confirmer ou détruire ses espérances. Enfin, le premier coup de 10 heures se fit entendre. Tous les yeux se portèrent vers la cheminée. 10 heures sonnèrent lentement, chaque coup retentissant dans le cœur de la multitude. Enfin, le 10e coup vibra, puis s'évanouit, frémissant dans l'espace, et un grand cri, parti de 100 000 poitrines à la fois, succéda à ce silence. « Non ve fumo !»« Il n'y a pas de fumée. » C'est-à-dire, nous avons un pape. En ce moment, la pluie commença de tomber, mais on ne fit point attention à elle, tant étaient grands les transports de joie et d'impatience de tout ce peuple. Enfin, une petite pierre se détacha de la fenêtre murée, donnant sur le balcon, et vers laquelle tous les yeux étaient fixés. Une acclamation générale accueillit sa chute. Peu à peu, l'ouverture s'agrandit, et, en peu de minutes, elle fut assez large pour permettre à un homme de s'avancer sur le balcon. Alors le cardinal Ascanio Sforza apparut. Mais, au moment où il allait sortir, effrayé par la pluie et les éclairs, il hésita un instant et finit par reculer. Aussitôt, toute la multitude éclata à son tour comme une tempête, avec des cris, des imprécations, des hurlements, menaçant de démolir le Vatican et d'aller chercher elle-même son pape. À ce bruit, le cardinal Sforza, plus épouvanté de l'orage populaire que de l'orage céleste, s'avança sur le balcon et, entre deux coups de tonnerre, au moment d'un silence incompréhensible à qui venait d'entendre les rumeurs qu'il avait précédées, il fit la proclamation suivante. « Je vous annonce une grande joie. L'éminentissime et révérendissime Seigneur Roderic Lenzuolo Borgia, archevêque de Valence, cardinal diacre de San Nicolao in Carcere, vice-chancelier de l'Église, vient d'être élu pape et s'est imposé le nom d'Alexandre VI. » La nouvelle de cette nomination fut accueillie avec une joie étrange. Roderic Borgia avait la réputation d'un homme dissolu, il est vrai, mais le libertinage était monté sur le trône avec Sixte IV et Innocent VIII, de sorte qu'il n'y avait rien de nouveau pour les Romains dans cette singulière position d'un pape ayant une maîtresse et 5 enfants. L'important, pour l'heure, était que le pouvoir tombât dans des mains fermes, et il était encore plus important pour la tranquillité de Rome que le nouveau pape héritât de l'épée de Saint-Paul que des clés de Saint-Pierre.